Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Ben oui, la semaine passée, deux épisodes seulement, deux minables épisodes. Je sais, vous êtes en furie. Le mardi, je l'ai complètement oublié. Souvent, je vous explique les petites routines du matin. Mais jeudi, j'étais à Québec. Fait que quand je vais à Québec, en plus, j'ai pris le train de 6h25. Et calvaire. Dans ce temps-là, ça veut dire que je me lève à 5h25. Puis quand mon cadran est à ces heures-là, je dors pas. C'est pas compliqué. Je me réveille à 4h. Je suis pas capable, moi, de dire « Ah, je me couche, puis le cadran me réveillera. » Je pense que j'ai jamais été capable de faire ça. C'est ça. C'est comme par définition une mauvaise nuit. S'il faut que je me lève... Je te dirais, mon heure là, qui me stresse pas, c'est, mettons... C'est pas bien plus tard que 5h30, mais c'est à demi-heure-là, en tout cas. Fait que là, ben, c'est sûr, tu sais, gars, tu prends le train, puis en arrivant en radio, puis tout, puis la patente. Bref. J'ai une intro avant de tomber dans mon sujet qui est 25 ans plus tard, Galaise Olivier. Qu'est-ce que changer en humour vraiment? C'est quoi ma lecture de ça? Ça fait que je pense que ça va intéresser bien du monde parce que habituellement, c'est des questions médias qui vous intéressent. Je veux commencer par. Alors, moi, je suis dans une passe ordinaire actuellement. Je suis dans une passe ordinaire. Pas une passe mauvaise, mais c'est une passe ordinaire. Tu sais, il y a des affaires, il y a des problèmes plates à régler puis sont arrivés comme un peu en même temps. Puis dans ce temps-là, je me connais puis je suis plus fragile. Tu sais, je suis plus fragile. Ça fait que je fais pas par exprès pour... me mettre dans des situations qui me fragilisent. Et entre autres, j'ai découvert... Bon, comme vous savez, je suis très, très, très... j'ai un grand, grand intérêt pour l'actualité, les journaux, la lecture de... les analyses, les commentaires par rapport... Bon. Puis la plateforme pour ça, c'est Twitter. Et donc vient avec le chiolage en conséquence. Moi, je suis pas paramétré chiolage, là. Il n'y a pas de troqueur que je vois passer sur ma timeline, mais c'est du chiolage pareil. Ça peut être du chiolage de très haut niveau. Ça peut être... c'est ce que moi, j'appelle du chiolage. C'est-à-dire que, puis en même temps, c'est pas vrai que c'est juste du chiolage, mais c'est du commentaire. Bon. Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai fait, attends une minute, là. En quoi Twitter, c'est réellement une source d'information? Si t'es, je dis bien si, je parle pas pour tout le monde, mais si t'es déjà un lecteur, c'est-à-dire que moi, sur mon Twitter, il y a beaucoup d'intervenants ou de médias en France puis ici au Québec. Très peu aux États-Unis, zéro Canada anglais. Fait que tu vois mes intérêts, c'est quoi, tu sais? Puis c'est déjà des journaux que je lis tous les jours. Tous les jours, j'ai le nez dans Le Monde. Je fais un tour sur le Figaro. Tous les jours, je lis énormément les journaux du Québec. Fait que, est-ce que Twitter m'apprend tant que ça? Je vais vous donner un exemple. Le 7 octobre, moi, je suis au déjeuner au Universel. C'est un samedi, si je ne me trompe pas. Puis je vois l'attaque du Hamas en Israël. Je la vois avant tout le monde. Mais que je la vois avant tout le monde, genre 60 minutes, c'est quoi, là? En quoi? Bon. Mais ça vient... Alors, on peut dire, oui, source d'information. OK. Mais ça vient aussi avec les commentaires qui viennent autour de ça. Puis j'ai fait... Ça me gaze. Ça m'amène rien. Ça vient... D'abord, ça envoie un message extrêmement négatif parce que... C'est tout le temps... ça montre tout le temps le côté plainte, là. T'as toujours l'impression que t'es envahi de partout, là, finalement, là, t'sais. Puis, c'est pas une source d'information si tu t'informes à la source. Ça fait drôle à dire, c'est un bon slogan. C'est-à-dire que moi, le matin, j'ouvre, puis là, je fais le tour des journaux, t'sais, puis j'ai tout, là. J'ai tout, même fois 10. Fait quand même que j'ai le petit commentaire de lui... Puis qu'un qui va sur Twitter pour dire « Oui, en tout cas, cet article-là, puis t'as la fin », ça rajoute beaucoup à la négativité. Puis l'exemple turbo, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge. À partir du moment où tu vois la vidéo de Guillaume Lemaitre-Vierge, puis que tu dis « j'y crois ou pas », c'est A ou B, là. Il n'y a pas de longue réflexion, là. Est-ce que ça se peut qu'il n'ait pas vu ce qui est écrit sur l'arbre? C'est ma position, je vous en ai parlé. Ben oui, ça se peut. Je suis qui, moi, pour rentrer dans sa tête? Ou c'est impossible, puis là, c'est épouvantable, puis il voulait faire une insinuation. OK. Ni toi, ni moi, on peut rentrer dans la tête. Ça fait que là, fin de l'histoire, moi, là. Fin de l'histoire. Calvaire, fin de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Bon, mais tout ça, là, ça m'intéresse pas, tu comprends? Tout le... Après, puis l'autre fait une vidéo, puis là, ça arrête plus, puis là... Man. Ça ne m'intéresse pas, comprends-tu? Donc, j'aurais pu ne jamais... Parce que j'ai encore vu ça... C'était sur Twitter, je pense que... Ça fait que là, tu sais, j'ai comme sauvé un 30 minutes, là. C'est important que je sauve un 30 minutes. Ça fait que je l'ai enlevé, Twitter. Je l'ai enlevé, Twitter, depuis au moins... Ça va faire presque une semaine. J'ai vraiment pas l'intention d'y retourner. J'ai pas fermé mon compte parce que on connaît pas l'avenir. Ça pourrait être utile pour X. Sans compter que c'est un réseau qui s'intéresse à moi, mais zéro, je retiens rien. Parce que, justement, tout ce que je publiais, c'était des extraits d'articles que je trouve intéressants, qui amènent aucune polémique, qui sont totalement dans un esprit angle mort. Tout le monde s'en sac. Ça fait que j'ai fait comme... Non. Moi, pour dire que... Tu sais, je veux dire, je suis pas dans une salle de nouvelles, moi, où je veux savoir tout avant tout le monde. C'est pas vrai. Je peux savoir les affaires le lendemain. Qu'est-ce que ça change? Je peux ne pas le savoir. Qu'est-ce que ça change? Faut que ça soit utile pour vous parler. Faut que ça soit utile pour ma chronique avec Sylvain à 11h30 le matin. Et ça, là, ça marche en patrouillant les journaux. Ça marche de même. Ou en allant voir un bout sur YouTube, comme je fais tout le temps. Puis c'est tout, là. Après ça, le samedi, je m'assois plus longtemps, puis là, je lis des analyses dans le monde, je lis ça intégral, puis ça m'intéresse, puis ça me met du plomb dans la tête. Comprends-tu? C'est tout. Ça fait que, voilà. Donc, tout ça pour dire que la semaine passée, je vous ai échappé deux fois plutôt que zéro fois. Et cette semaine et les semaines à venir, ça devrait pas avoir lieu, honnêtement. Et puis, alors, mon thème, c'est les oliviers. Bon, d'abord, je vous ai pas regardé. Ça fait que je ne vais pas parler du gala, je parle du fait que ça faisait 25 ans. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est 25 ans plus tard. Et j'étais là, moi, au tout début. Je ne recommencerai pas des affaires que je vous ai jasées. Donc, je suis un très, très bon témoin de ce qui s'est passé. Puis là, bien évidemment, c'est ma vision à moi. Puis vous pouvez vous empresser de me dire, « Hey, il y a autre chose aussi que je vois à la lumière de ce que tu racontes, etc. » Quand je me suis penché sur cette question-là, il y a deux affaires que je vois qui ont vraiment, vraiment changé. La première affaire, c'est l'arrivée des médias sociaux. Je ne m'étendrai pas là-dessus, j'en ai parlé, je pense, amplement avec Sylvain, puis à vous autres aussi. L'arrivée des médias sociaux, ça a fait, comme dans plein d'affaires, ça a coupé dans les intermédiaires. Et quand je parle d'intermédiaires, c'est l'intermédiaire qui était nécessaire avant entre un humoriste et un public. Ça prenait avant une permission. C'est-à-dire qu'il fallait que tu signes avec un gérant qui était compétent et influent et ou que tu aies un break avec une station de radio, une station de télé. C'est pas compliqué, là. Sinon, tu pouvais passer 25 ans à faire le tour des bars, mais pour dire qu'à un moment donné, tu deviens le genre « Wow, tu pars une production », ça prenait la permission. Là, je parle pour ceux qui vendent des tickets. Tu peux avoir une très belle carrière, Jean-René Dufort, mais que tu ne vends jamais de ticket, fait qu'à ce moment-là, ben, tu passes ta vie à demander la permission. Parce que si TVA et Radio-Can, puis Nouveau disent « Jean-René Dufort, on n'en veut plus », puis que la radio, semble-t-il, n'en veut plus depuis un bout, ben, il reste chez eux. Là. Qu'est-ce que je fasse? À ma connaissance, il n'est pas sur le web. Puis c'est un exemple parmi mille, tu sais. C'est quand tu vends l'étiquette, pour vendre des tickets, il fallait à quelque part que tu sois médiatisé. Il fallait que tu aies un début de notoriété. Tout ça, ça demandait la permission. Or, les médias sociaux ont contourné ça. C'est-à-dire que tout à coup, tu as un contact direct, sans la permission de personne. C'est-à-dire que tu t'ouvres un compte puis tu travailles. Puis ça crée, entre autres, l'exemple parfait, c'est Mathieu Dufour, qui hier a gagné l'Olivier de l'année. Madoff Vachon. J'aime beaucoup ce surnom-là. Donc, Madoff Vachon... qui a 250 000 abonnés sur Instagram, puis qui tout à coup remplit le Centre Bell et tout, comprends-tu? C'est comme, ah ben ouais. Fait qu'il a fait ça parce qu'il a gossé une... j'en vois une autre de ce temps-là qui maîtrise très, très bien Instagram, c'est Liliane Blanco, Bianco Binette. Je sais pas si c'est elle ou oui, là, en tout cas. Elle était dans Survivor, Big Brother. Puis, tu sais, genre, elle a 100, quelques mille, puis elle fait des vidéos. Elle l'a au bout, là. Elle connaît ça. Tu que moi, je suis zéro, là. Pas que je suis zéro, que je comprends pas, mais j'ai aucun contenu intéressant que je fais pour Instagram. Elle, c'est l'inverse. C'est que tu vois, elle, là, sa permission, entre guillemets, c'est la permission d'ouvrir un compte Instagram. Donc, c'est pas une permission. Instagram veut que tu ouvres un compte. Puis après, c'est la course à... Ben, démarque-toi. Ça fait que ça, c'est un énorme changement parce que quand Stéphane Ferland, vous irez voir l'épisode spécial du gérant avec Stéphane Ferland, il aborde un peu comment les Oliviers sont nés, c'est-à-dire que lui, il était sur le CA de la disque, puis il disait, Chris, comment ça se fait un trophée en humour? Je me souviens, Daniel Lemire gagné une fois sur deux. Puis c'est nous autres qui remplit les salles, qui vend étiquette. Ça fait qu'il a initié l'idée d'avoir un gala consacré que à l'humour. Il y a 25 ans. Puis, je veux dire, à ce moment-là, ce que je vous dis là, c'était la réalité du terrain. C'est-à-dire, c'était moi qui étais un joueur. C'était juste pour rire, Roson, Ferland, un bout de Faneuf. Il y avait quelques joueurs, soit gérants, soit producteurs, ou les deux. Puis, c'était nous autres qui faisaient pousser le contenu, c'est-à-dire pousser des artistes. Puis il fallait, ah ouais, ce sera le fun qu'il passe dans un gala, ah, il sera le fun, tu le prennes à c'est quoi. Tu sais, il y avait comme. Terrain de jeu, il était pas très, très grand, là. Il y avait peut-être 10 opportunités de diffusion, là. Pour vrai, pensez-y, là. Tu pouvais avoir une chronique régulière, Jean-Pierre Coallier, son Adlib, ou après ça, Marc Labrèche, ou l'été avec Brathwaite. Là, je vous parle même pas des shows qui jouent en même temps. Tu pouvais avoir. Un rôle à C'est quoi, parce que c'était très humour. Un rôle à Énergie. Deux stations, pas 27, là. Tu pouvais, après ça, avoir une émission à Musique Plus. Il y avait Musique Plus qui était comme très vivant, là. Louis-José, Dolora Clip. Il y a plein de monde qui leur élan, c'est plus... Une autre affaire qu'il faut que je vous dise, là. À cette époque-là, il y avait Musique Plus qui lançait beaucoup de talents, mais il y avait aussi des campagnes publicitaires. Oui, José Houd a fait l'Oblaz, ça l'a propulsé. Martin Matt a fait Honda, ça l'a propulsé. Il y avait certains humoristes comme ça qui pouvaient ramasser des campagnes pub, puis chut, ça leur donnait un coup de notoriété. Donc ça, c'est la première grosse différence. La deuxième, c'est l'arrivée des filles. Des filles en humour, je veux dire... Il y avait Clémence Desrochers, après ça, il y avait Lise Dion. Il y avait un bout de Marie-Lise Pilote. Je dis un bout parce que elle vendait des tickets corrects, là, tu sais, c'était comme... Puis après ça, il y en a eu une qui, tant qu'à moi, a été vraiment la première rupture avec l'air d'aller normal, c'est Cathy Gauthier. Puis Cathy Gauthier, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait un humour qui était surprenant dans la bouche d'une fille. Les filles n'étaient pas baveuses, n'étaient pas irrévérencieuses comme Cathy, tu sais, qui est arrivée, qui se présente bien en plus, tu sais, c'est comme pas tu sais, apparaît bien, etc. Puis là, tout à coup, tu écoutes ce qu'elle dit, puis tu fais comme beau boy. Puis comme l'humour, tout l'humour, peu importe sa forme, est basé sur la surprise, que ce soit la surprise d'un bon gag que t'as pas vu venir, que ce soit la surprise des Denis Drolet, que tu fais c'est qui les énergumènes, puis. C'est la surprise qui fait que... La mécanique qui fait que tu pars à rire. C'est un effet de surprise. Bon. Ça fait que Cathy est arrivée, puis elle a été très surprenante. Faut y accorder. Alors là, je suis pas un expert de l'histoire de tous et chacun en humour, mais je vous dis juste que les grandes lignes, c'est ça. Et ça, ça a ouvert une porte pour laquelle, là, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que... C'est le fameux l'œuf ou la poule. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a tout à coup eu... pour toutes sortes de raisons, avancées féministes ou autres, une espèce d'ouverture ou un préjugé a été cassé dans la tête et des gars et des filles. Parce que dans le temps, je me souviens, le fameux « les filles sont pas drôles », pas juste des gars qui disaient ça, là. Bon. Est-ce que l'ère du temps a cassé un préjugé? que tout à coup, les gens ont eu une ouverture supplémentaire? Ou est-ce que les filles qui ont fait de l'humour ont changé leur humour? Je ne sais pas c'est quoi la réponse. C'est peut-être un bout des deux. Mais je peux juste vous dire que, à peu près en même temps, donc recul, il y a quoi? Je sais pas, moi, 15 ans? 15 ans? 20, 15, 10, en tout cas. À peu près en même temps ou un peu après, l'affaire est arrivée dans le sport. Personne, il n'y a pas de féministe qui en parle jamais, mais c'est une avancée hallucinante qu'à la lutte et qu'au UFC, donc arrangé, pas arrangé, il y a des main events, le combat principal de la soirée, depuis Ronda Rousey au UFC, c'est pas toujours, mais ça peut être une femme contre une autre. Puis là, vous allez dire, ben oui, rien là, les filles, ils se tapent sa gueule comme les gars. Non, c'est pas ça qui est hot. Ce qui est hot, c'est qu'ils vendent autant de tickets. Dans un truc archi-macho, l'enfer, t'as des gars, comprends-tu, genre, les plus gars stéréotypés imaginables, je m'inclus là-dedans, dans le sens que c'est des affaires que j'aime, qui font comme, ah oui, c'est bon, ils se tapent sa gueule solide, là, sont vraiment bonnes, là. Y a personne qui fait comme, ah, hein, c'était un bon match de filles. T'entends plus ça, là? Alors, est-ce que les filles se sont entraînées différemment? Est-ce que c'est ce bout-là que je sais pas. C'est-à-dire qu'évidemment, chaque féministe va dire, non, c'est grâce à notre grande sensibilisation, peut-être. Mais peut-être aussi qu'il y a des filles qui ont commencé à avoir une mentalité différente, qui se sont dit, on va faire rire autrement. Il y a un bout qu'on va arrêter de faire attention. Moi, c'est pour ça que Cathy, ça fait à peu près... Dès le départ, je l'avais invitée à mon podcast. Oui, hey, Marc, hey, je te reviens, reviens jamais. T'sais. Fait que j'ai arrêté de l'inviter, là. Mais avec elle, c'est ça que je veux parler. Elle pourrait vraiment me dire de l'intérieur, trouves-tu que toi, t'as fait un pas vers un humour qui n'était pas l'humour de tes prédécesseurs ou t'as juste l'impression que le marché s'est ouvert? C'est ça que je veux demander. Mais c'est ça les gros changements en humour que je vois. Qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas autant ce que les gens veulent en humour que changer. Ils veulent rire. Il rit à droite. J'en ai parlé avec Louis T. Je le maintiens. D'ailleurs, il était 100% d'accord. De l'humour à gauche, c'est bon d'un bar. Quand tu veux monter puis te mettre à être un humoriste qui fait des ventes d'étiquettes, qui part en tournée, il n'y a pas de place pour l'humour à gauche. Il n'y a pas de public pour ça. Je m'en réjouis pas, je te dis. C'est ce que je constate. Je connais d'ailleurs des jeunes humoristes qui travaillent très, très bien, qui travaillent fort, qui veulent... mais qui ont une sensibilité très à gauche, puis ça lève pas. Ils restent dans un certain niveau. Puis je veux dire, je regarde ce qu'ils font, puis je fais, ben oui, c'est l'autre étape après, ton marché s'est rétréci énormément. Fait que c'est la même affaire, les filles. Alors, c'est ces questions-là que je peux pas aller vraiment tant de l'avance. Je vous le dis honnêtement, si je pouvais me prononcer, je le ferais. Je vous dirais, d'après moi, c'est ça, mais c'est A ou B. Soit que les gens ont une ouverture différente, soit que les filles font pas le même humour qu'à l'époque, Lise, puis tu recules, puis Marie-Lise, etc. Ou soit que c'est un mélange des deux. S'il y a deux affaires qui ont changé, puis qui se sont rejoints. Mais c'est une grosse différence sur le call du contenu. Puis ce qui gagne, pour moi, ça c'est une grande victoire, c'est que il y a plus question d'humour de gars, d'humour de filles, là, tu sais. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il y a des gars ou il y a des filles qui attirent. Il y a un public qui avec une identité selon chaque humoriste. Là. Mais c'est drôle ou pas, selon plusieurs ou selon personne. Ça fait que c'est ça. En tout cas, j'ai essayé de vous faire une analyse un peu le plus simple possible. Et puis pardonnez-moi si j'étais moins là, mais comme je vous dis, là, c'est une passe parce que des affaires... un peu moins jojo, puis ça arrive, voilà. Donc, il fait très beau, je pense que je vais retourner en vélo, j'étais là hier. J'ai fait encore ma ride hier, c'était vraiment... Hey, je n'ai vraiment pas fait... Je veux juste finir là-dessus. Quel hiver poche! Je suis un excellent baromètre du type d'hiver qu'on a, puis je peux vous dire que, ironiquement, j'aurais dû faire plein de vélos, parce qu'il n'a pas fait froid, mais il a venté souvent, mais surtout, c'était tout le temps gris, puis c'est plate, allez. Surtout que moi, ma ride, là... Pour ceux qui... Je pense pas qu'il y a beaucoup d'entre vous qui roulaient l'hiver, mais ma reine, moi, c'est le canal de la Chine, OK? Mais le canal de la Chine, du côté boulevard Saint-Patrick, donc du vieux port à la Chine, la piste cyclable n'est pas déblayée. Donc, tu es sur Saint-Patrick full industriel. C'est plate, puis c'est long, là. Sauf qu'une fois que t'es rendu au bout, t'arrives à la Chine, qui est collée sur la salle le long du fleuve, et la salle, eux autres, pas juste qu'il y a des neiges, ils mettent du sel tout. Fait que le retour, qui est plus long que l'aller, là, t'es sa piste cyclable, l'hiver, le fleuve à côté, c'est génial. Mais toute l'allée, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, bonne journée, bye-bye.